Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, jusqu'à midi, c'est votre magazine bien-être, feel good. Et aujourd'hui, on va tenter de faire du bien à nos amours avec notre question du jour, question importante et concernante. La jalousie est-elle, comme certains le prétendent, une preuve d'amour? Vous en pensez quoi, Julia?
Pour moi, c'est plutôt le contraire. Après tout, tout dépend du degré de jalousie, mais on verra ce matin que c'est souvent plutôt la manifestation d'un problème de manque de confiance en soi. On va détailler tout ça et surtout voir ensemble s'il est possible d'apaiser un conjoint trop jaloux, ou même soi-même, comment travailler sur ce sentiment. Est-ce que ça se soigne, la jalousie, y compris chez les plus jeunes, entre frères et sœurs, par exemple? On va faire le tour de toutes ces questions avec nos invités, Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple, ainsi que Florence Millot, psychologue clinicienne et psychopédagogue.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre partie tendance, tout d'abord avec Séverine Pierron, celle qui décrypte pour nous les tendances 2.0, enfin ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On s'intéressera à ces mamans imparfaites qui font le buzz sur TikTok, mais qui surtout nous font déculpabiliser. Puis à la fin de cette émission, Soizic Belin a prévu de nous parler de boulot en version estivale. Elle va nous dire ce qui se fait de neuf dans le secteur des cahiers de vacances. Il en existe même pour les adultes désormais.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre émission Bien-être Feel Good préférée. Et notre question du jour, je vous la rappelle, la jalousie est-elle une preuve d'amour? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment, qu'il n'y a que les vrais jaloux pour penser ça. Mais on va réfléchir là-dessus aujourd'hui et on va commencer par voir ce que ça implique et ce que ça a inspiré, surtout à Clément Lanoux. Bonjour.
Bonjour tout le monde, moi je suis bonjour. Très jaloux quand vous regardez les invités plus que moi, ça me rend complètement fou. Effectivement, aujourd'hui on va parler du plus horrible des petits défauts. La jalousie. Alors, tout début pour démarrer, comment reconnaître quelqu'un de jaloux? Alors, c'est très simple, dans la rue, quelqu'un de jaloux commence souvent ses phrases par...
Ah non, moi je suis pas jalouse. Bon, après, faut pas me chercher, quoi.
Non, je suis pas jaloux, mais pourtant, on a tous, et c'est sain, un petit peu de jalousie. C'est quand il y en a trop que ça devient bizarre. Alors justement, en exclusivité, voici mon détecteur de jalousie.
En exclusivité mondiale pour Europe 1, voici le détecteur de jalousie.
Donc vous l'avez sous les yeux, c'est une machine américaine que je viens de ramener. On va tester sur Julia et Mélanie par exemple. Ouais. À chaque fois que je vous donne une phrase, vous me dites, alors ça monte crescendo, si c'est quelque chose qui peut vous arriver ou pas. Si vous vous arrêtez assez rapidement, vous êtes un petit peu jalouse, mais pas trop. Si vous allez loin dans les questions, vous êtes complètement jalouse et on va avoir besoin de nos invités pour vous aider. Ah. Attention, est-ce que si votre chéri a un appel masqué, vous êtes à côté en disant, bah décroche, pourquoi tu décroches pas?
Mais carrément.
Ah ouais? Non.
Très bien. Bon,
moi,
bah, Julia,
pas,
on s'arrête
louche,
là.
Hein. Ah, déjà,
on s'arrête
je suis éliminée.
Là. Déjà éliminée, c'est que vous
pas
êtes
jalouse.
Pas trop jalouse.
Ça sent pas bon pour moi. Hein,
attention, Mélanie, pardon d'avance pour ce gros mot. Avez-vous déjà dit c'est qui cette pétasse alors qu'une charmante dame parlait à votre mari?
Mais même pire, j'ai dit c'est quoi.
Deuxième point. Troisième point, avez-vous, oui ou non, déjà fouillé dans son téléphone?
Oh, mais c'est la base, non?
C'est la base, ok. On allait apprendre. Alors normalement, alors là, attention, on monte d'un cran encore. Ouais. Avez-vous, Mélanie, déjà, et vous pouvez jouer chez vous, hein, dans la voiture, ouais. Avez-vous déjà zappé un film parce qu'il y avait, par exemple, Scarlett Johansson à l'écran et vous savez qu'il fantasme quand même beaucoup dessus?
Ah mais c'est sûr.
Bon, bah, je passe carrément au haut level. Ouais. Il m'en restait deux. Alors là, je manque. Avez-vous activé un système GPS dans son téléphone pour les géolocaliser?
Je l'ai fait avec mon fils, mais pas mon mari quand même. J'ai pas osé.
Et vous savez pourquoi vous l'avez pas fait avec votre mari?
Parce que c'est compliqué. Il faut qu'il accepte.
Il n'aurait jamais accepté.
Alors pour l'instant, on a 17 sur 20. Attention, aïe, aïe. Avez-vous 20 sur 20 de la jalousie? Est-ce que vous avez déjà fait la tête à votre chat parce qu'il a dormi avec votre mec?
Non, quand même pas.
Non, c'est bon. Alors ça va. Et je vais terminer quand même à la question ultime pour savoir si vous êtes quelqu'un de jaloux.
Voici la question ultime pour savoir si vous êtes quelqu'un de jaloux.
Et la question, Julia, vous revenez dans le jeu. Ah, je vous cool. La pose, vous pouvez tous vous la poser. Pouvez-vous inviter un ou une ex de votre chérie à votre mariage?
Oui. Moi, c'est Julia qui parle, oui.
Oui.
Mais jamais de la vie.
Ah bon?
Mais elles n'ont même plus le droit d'exister, en fait.
Vous n'avez jamais été amie avec une ex de votre mec?
Ben, lui, était resté ami au début, avec certaines, et je les ai vite évacuées du paysage.
J'ai l'impression qu'on a notre réponse. Julia, bravo. Mélanie, il y a du boulot. L'émission est là pour ça, c'est parti.
Mais un grand écart entre nous deux, là, c'est incroyable. Merci beaucoup, Clément. On va à présent entrer plus en détail dans notre thématique avec vous, Camille Rocher. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychologue et thérapeute de couple. Je ne vous ai pas fait venir pour pour une consultation perso. Vous êtes également l'autrice du livre « Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple » aux éditions Larousse. Alors dites-moi déjà, est-ce que c'est fréquent la jalousie dans un couple? Est-ce qu'on a étudié ça précisément, évalué les choses?
C'est hyper fréquent et en fait, il y a beaucoup d'enjeux derrière et il y a des personnes qui se nourrissent de cette jalousie pour se dire qu'on s'aime passionnément, sinon on serait pas jaloux. Il y en a même qui provoquent certaines choses pour voir si le conjoint va être jaloux ou pas. Et parce qu'il y a des personnes dans mon cabinet qui arrivent en disant « je n'aurais jamais cru qu'elle réagisse comme ça ou qu'il réagisse comme ça ». S'il est aussi jaloux, c'est qu'il tient trop à moi. Mmh. Voilà. Et en fait, voilà, il peut... Alors, je pense que c'est une fausse croyance, on en reparlera, mais en tout cas, oui, c'est très fréquent.
Est-ce que ça touche autant les hommes que les femmes, la jalousie? Est-ce qu'on a une idée?
Honnêtement, moi, je me base sur les statistiques de mon cabinet. Ça fait 10 ans que je côtoie des couples en libéral. Je peux vous dire que c'est hommes et femmes.
Même combat.
Ouais,
chez les Gomez, honnêtement, c'est 50-50, ouais. Hein, parce qu'on n'a parlé que de moi, mais je vous assure que de l'autre côté, c'est la même. En fait.
Bon, alors, Clément, vous voulez dire quelque
alors,
chose?
Alors, justement, j'ai une question. Pareil, hein, les chiffres sont basés que sur mon entourage. Mais est-ce que c'est une idée reçue que les personnes les plus jalouses sont également peut-être celles qui auraient le plus envie d'être infidèles?
Alors, je pense que, alors les personnes, non, la question est bien parce que les personnes Merci. Qui sont jalouses ont souvent la réalité du risque qu'il y a dans la relation. Donc en réalité, c'est vrai, ça ne veut pas forcément dire que elles seront jalouses, que souvent elles vont dire mais moi je serais incapable de faire ça, j'ai tellement souffert, nanana. Mais c'est soit parce qu'elles l'ont vécu avant, soit parce qu'elles connaissent la réalité et que justement elles sont pas naïves en se disant c'est pas parce qu'on s'aime qu'on sera toujours fidèles quoi.
Dans le cas de Mélanie, ça n'a rien à voir avec une envie de tromper votre mari.
Non du tout, hein, vraiment pas. Non.
Il nous écoute. Bonjour. Alors, on parle souvent de la jalousie en amour, mais la jalousie, ça peut aussi affecter toutes les relations, hein, familiales, amicales. Est-ce qu'on peut même être jaloux d'un collègue? Ça marche, ça?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux derrière. En fait, c'est toujours l'idée, quelqu'un est mieux que moi, existe plus que moi, est plus apprécié que moi. Donc, en fait, c'est une comparaison. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Et souvent, les personnes jalouses ont du mal, sont souvent d'ailleurs des personnes qui vont énormément travailler pour être reconnues dans le travail. Il y a souvent un effet de comparaison. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ça commence, vous le disiez en introduction, dans la petite enfance, entre les frères et sœurs. Quand bien même, il n'y aurait aucune raison d'être jaloux, ça commence dès là.
Vous préférez mon roux que le vôtre, non Clément?
Évidemment, j'aime tout chez vous. Non, est-ce qu'un parent peut être jaloux de son enfant?
Oui. Oui. Alors, beaucoup dans les familles recomposées. Oui. Maintenant, alors un enfant biologique, oui, parce que ils vont voir qu'en devenant parent, le père ou la mère s'est énormément investi avec l'enfant. Ça devient une fusion presque. Enfin, c'est pas presque, c'est souvent c'est devenu une fusion avec l'enfant. Et donc l'autre s'exclut de lui-même en se disant si tu m'aimes, tu vas revenir vers moi. Et donc oui, il y a une jalousie de l'enfant. Et ça, alors là, ça peut être assez souvent féminin d'ailleurs de voir que le conjoint, le papa, est hyper fusionnel avec ma fille et de se dire mais en fait c'est un obstacle dans notre couple, cet enfant.
Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Moi, plutôt les papas qui sont jaloux de la fusion maman-bébé.
Oui, mais alors c'est plus commun. Et comme les femmes, on a plus tendance à dire qu'elles sont fusionnelles avec leur bébé. Limite, ils peuvent plus se partager ensemble et tout. Alors que quand c'est la femme qui voit que. Là, il y a vraiment quelque chose. Mais ça vient d'une blessure. Enfin, là, pour le coup, il y a souvent une blessure profonde bien plus ancienne.
Et toutes ces formes de jalousie, elles ont quelque chose en commun? Parce qu'on parle parfois aussi du manque de confiance en soi. Est-ce que c'est un dénominateur commun?
Oui, mais alors, le manque de confiance en soi est la base de ça. Parce que souvent, c'est des personnes qui vont demander des relations exclusives, très fusionnelles aussi. C'est l'idée que moi-même, je ne suis pas suffisamment à la hauteur. Donc, je suis sans cesse à vouloir être rassurée sur le fait que je suis à la hauteur. Tu n'aimes bien que moi. C'est même des personnes qui sont incapables d'imaginer que le conjoint puisse trouver une fille jolie dans la rue, par exemple. Elles se disent ça déjà, c'est trompé. Là où il n'y a rien de plus naturel que de voir une personne qui est belle, c'est comme ça.
Enfin, moi, je l'autorise à regarder, mais après, il se prend une tarte, quoi. C'est tout.
Oui, mais alors là, ça va encore plus loin. Il y en a qui se disent, mais si t'as ça dans ta tête, ça veut dire que je ne t'attire plus. Vous voyez, c'est vraiment...
Ah non, quand même pas,
il y a
j'en
tout
suis
de suite... Alors, on en parlera aussi, mais il y a la jalousie pathologique et la jalousie qui est réactionnelle et qui est normale. Mais là, dans les jalousies pathologiques, on peut aller jusque-là.
Ça peut pas être parfois des espèces de constructions de couple aussi qui sont pas forcément totalement malsaines, mais un espèce de jeu de couple installé depuis des années. Je parle pas pour moi,
Non, pas du tout.
La meilleure amie.
C'est pour, non, mais c'est pour des couples qui fonctionnent un peu comme sur la jalousie de l'un et de l'autre, quoi.
Oui, alors souvent parce que c'est aussi des couples qui ont vécu ça avant, des conjoints qui ont vécu ça dans leur couple précédent, ou alors il y a ces blessures des deux côtés. Donc ils se rassurent au départ parce qu'ils recherchent à travers ça une relation très fusionnelle et ça les encourage parce qu'ils sont heureux de voir que l'autre réagit comme nous. Et en fait, au bout d'un moment, ça tient plus.
Clément.
Et quand c'est pathologique à ce point, ça se soigne bien?
Alors, honnêtement, c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a qui, dès le départ, se disent, bon, pour la calmer, je lui montre tout, en effet, j'arrête la relation avec les amis, je me coupe. Sauf qu'au bout d'un moment, le conjoint va dire, mais j'ai lâché tous mes amis, maintenant on est que tous les deux. Là, les confinements, ouais. Le confinement, ça a été mais génial pour les jaloux parce qu'on n'était que tous les deux, c'était super. Et alors, le déconfinement, ça a été d'un compliqué. Parce que là, tout à coup, on a repris les relations à l'extérieur. Et c'est comme si, parce que tu es bien à l'extérieur, tu n'es pas bien à l'intérieur. Ouais. Vous voyez, il y a toujours ce truc. Ça...
Tout confiné,
ouais,
en fait.
Ouais, voilà. pour les jaloux, c'est génial.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça balotte. Il m'en veut pas de me méfier. Homme, femme, y a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux.
C'est Dadjou.
Ah oui.
Et oui, il est jaloux quand il aime. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre ce matin. On s'interroge autour de cette question. La jalousie est-elle une preuve d'amour? On en parle avec Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple, autrice du livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple, paru aux éditions Larousse. Alors, la jalousie, ça rejoint un peu l'une des croyances qui empêchent d'être heureux en couple dans votre livre, hein, que vous appelez donc l'idéal de l'amour-passion, qui voudrait que sans l'autre, nous ne sommes rien, c'est ça?
Ouais, complètement. En fait, la jalousie, c'est de se dire qu'on peut être totalement... On n'est qu'un, en fait, l'un pour l'autre. Donc, de voir que l'autre existe à l'extérieur, c'est anxiogène parce que ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un. Il faudrait que je sois toujours, que tu aies toujours envie que je sois avec toi. Voilà, c'est vraiment ça, ça part de là. Et donc, oui, il faut, pour ça, il faudrait que je vois dans tes yeux toujours la passion. Donc, quand je peux voir l'existence de l'autre en dehors de moi, ça devient anxiogène parce qu'on n'est plus juste retourné l'un vers l'autre, en fait.
Mais pourquoi on a besoin parfois d'être tout, d'être une exclusivité à 100% avec son compagnon? C'est parce qu'on a peur qu'il aille voir ailleurs, il nous abandonne, ou c'est encore bien plus intime que ça?
Alors, ça vient souvent d'une angoisse d'abandon, mais à la base, de façon plus générale, c'est un manque affectif énorme. Souvent, il y a eu l'idée, alors à tort ou à raison, en général dans les pathologies, dans la vraie pathologie, c'est à raison parce qu'il y a eu des événements très douloureux, type vraiment abandon. Je sais que des personnes qui ont été adoptées, alors c'est pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui vivent ça, et qui vont d'ailleurs quitter leur conjoint de peur d'être quittée. Donc pour pas être quittés, ils vont quitter. Et donc ça vient d'un manque affectif que je n'ai pas maîtrisé. Donc là, aujourd'hui, je le remaîtrise. C'est remettre une action dans ma vie. Donc d'être jaloux, c'est la sensation que je suis acteur de ma vie. C'est voilà, il faut comprendre le fonctionnement, mais c'est vraiment l'idée que cette fois, je ne vais pas subir le fait d'être abandonnée. Je le maîtrise. Sauf que malheureusement, souvent, j'obtiens l'inverse, c'est que je finis par être quittée ou je quitte, alors que je voulais justement que la personne m'aime encore plus.
Alors jusque-là, on a parlé essentiellement de la jalousie dans le couple et on y en reviendra. Mais la jalousie, c'est donc un sentiment très fort qu'on connaît depuis qu'on est enfant. On va en parler justement. Pour cela, nous sommes rejoints par téléphone par Florence Millot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychopédagogue. Pardon. À partir de quand commence-t-on à ressentir de la jalousie? C'est assez jeune, hein, je crois, que ça surgit. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça et comment, finalement, dans les premiers temps, en tout cas, un enfant l'exprime?
Alors, le mot jalousie en tant que tel, je ne sais pas. En tout cas, un changement de comportement, on voit, mais même à la crèche, qu'un bébé autour d'un an, deux ans, dès qu'il y a un petit frère qui arrive dans le ventre, dès que parfois on parle même de l'arrivée d'un autre, on sent déjà qu'il commence à mordre, par exemple, il se renferme, il ne veut plus trop manger. Il montre des signes qu'en tout cas, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, est-ce qu'on peut dire jalousie à cet âge-là? C'est un peu compliqué de savoir. Par contre, on sait que l'enfant, plus il est petit, plus quand justement il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, ça peut être difficile pour lui, tout simplement parce qu'il est encore dans une grande dépendance aux parents. Il ne peut rien faire sans lui, son identité elle n'est pas encore totalement construite, donc c'est tout à fait normal que s'il a l'impression qu'on lui vole cette place, il exprime de la jalousie. Mais ce qui est difficile, c'est que, pour faire court, en tant que parent, on est toujours content, on valorise l'enfant, on lui dit « mais tu verras, ça va être super, tu vas être grand frère, tu pourras t'amuser, tu auras un super rôle ». Et on oublie parfois qu'il a besoin d'exprimer aussi que ce petit frère, il voudrait peut-être le mettre à la poubelle, il voudrait le jeter pas loin au loup comme ça. Et ça lui fait du bien, évidemment, c'est fantasmatique. Hein. L'idée, c'est surtout pas qu'il touche réellement à ce petit frère, mais qu'au moins dans les mots, on puisse lui donner cette place pour que qu'il puisse traverser son sentiment de jalousie, de voilà, lui, j'en voulais pas.
Et est-ce que les enfants qui ont une jalousie envahissante, qui sont très possessifs, le seront également quand ils deviendront adultes ou c'est pas systématique?
Alors, la jalousie fraternelle n'a rien à voir avec la jalousie qu'on peut avoir de manière générale dans sa vie avec d'autres, avec son conjoint, avec des collègues. Par contre, la jalousie fraternelle, donc si c'est toujours envers le même petit frère, effectivement, quand ça devient envahissant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette ambivalence « je l'aime, mais je le hais un peu », c'est juste « je le hais, je le déteste, je ne le supporte pas dans ma chambre, je ne veux jamais jouer avec lui ». Là, ça peut durer effectivement parfois même toute une vie. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir très rapidement se dire là, je trouve que c'est trop envahissant à la maison, on fait que disputer, peut-être consulter ou aller voir quelqu'un d'extérieur. Parce que souvent, la jalousie est quand même une source réelle. Ça peut être ce petit frère qui est né asthmatique et qui a pris toute la place. Ça peut être le petit garçon tant attendu, il y avait trois filles avant, et alors là, mince.
Mais justement, Florence, comment on fait concrètement à la maison si on a un enfant effectivement qui a un comportement jaloux un peu à l'extrême, voire limite dangereux, même peut-être pour son petit frère ou sa petite sœur, comment on peut l'apaiser très concrètement, nous parents ? Vous avez des astuces ?
Alors, très concrètement, plus l'enfant est violent en acte, donc imaginons il veut l'étouffer avec un coussin ou le taper, lui arracher les cheveux, plus il faut qu'on l'aide à être violent, entre guillemets, fantasmatiquement. Donc par exemple, évidemment, toujours... poser la limite, il n'a pas le droit de toucher le tapis, etc. Bon, on le sait, mais fantasmatiquement, de dire, d'être de son côté, de dire je comprends parce que ce petit frère t'en voulait pas. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on lui fasse à ce petit frère ? Donc, c'est pas le frère réel, Paul, juste qui est en face, c'est ce petit frère. Et jouer un peu la voix, s'il est petit, hein, là je parle entre 2 et 4 ans, une voix de sorcière, le dessiner, on pourrait le ratatiner, on pourrait le jeter. Exactement comme dans un conte, en fait, parce que les enfants adorent les contes où il y a des méchants.
Mais moi, j'aurais peur qu'ils passent à la pratique, là, en jouant ce jeu-là, quand même. Ça me fait un peu peur.
Les enfants le font naturellement, en fait. C'est nous, adultes, qui coupons. Mais un enfant, moi, combien de fois au cabinet, des fois, il y a un petit qui me dit au revoir, il me dit. Je vais te crever les yeux. J'ai des images, c'est honte. Mais j'ai dit, mais non, c'est pas grave. Et puis il arrête. Puis après, c'est fantasmatique.
Merci. Merci Florence Millot. Merci pour tout ça. Vous avez d'ailleurs écrit un livre en partie sur ce sujet qui s'appelle Communiquer de façon non violente avec les enfants aux éditions Le Courrier du Livre. Merci à vous. Camille Rocher, je reviens vers vous. D'où vient la jalousie au fond du fond quand elle est forte à l'âge adulte? Est-ce que on en a déjà parlé? Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? On dit que c'est le jaloux en fait qui a un problème. C'est sûr ça? Parce que quand on a affaire à quelqu'un de jaloux, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal.
Oui, oui, oui. En fait, il y a deux choses. Il y a la jalousie réactionnelle et ça, parfois, malheureusement, le jaloux va se mettre en couple avec un conjoint qui, naturellement, a des actions qui ne rassurent pas. Typiquement, qui vont faire des petits mensonges, type « je suis sortie trop tard du boulot, en fait, je lui dis que le bus n'est pas passé », enfin voilà, des trucs comme ça. Et à force de découvrir ça, le jaloux est complètement stimulé là, dans sa crainte et donc ça va générer, ça va partir en escalade. Donc ça, malheureusement, inconsciemment, on pourrait en parler des heures, mais inconsciemment, le jaloux peut trouver quelqu'un qui ne va pas le rassurer.
Mais ça veut dire que si on est avec un jaloux, il faut jamais faire de petits mensonges, justement.
Jamais.
Ah ouais.
Jamais.
Ouais, mais ça veut dire qu'on rentre dans son jeu, si on commence.
Non. Ouais. Non, parce que là, pour le coup, je pense que déjà d'emblée en couple, ce genre de petits mensonges, c'est pas bon, parce qu'au bout d'un moment, l'autre a très bien compris le jeu, et donc ça part, voilà. Et le problème, c'est qu'avec un jaloux, vous faites ça, et lui après va projeter à chaque fois, t'es rentré trop tard. En fait, ouais, ta collègue, nanana. Et c'est là où, après, on part sur un manque affectif, sur des choses bien plus graves. Donc, il y a une jalousie réactionnelle où là, pour le coup, le conjoint qui n'est pas jaloux, mais qui est victime de ça, est un peu acteur quand même, parce qu'il n'a pas toujours été très clean, ou il verrouille son portable et il ne veut absolument pas donner le code. Enfin, voilà, vous voyez, des trucs comme ça qui, en fait, vont faire que exacerber le jaloux.
Donc ça, vous dites, excusez-moi, je rebondis tout de suite.
Oui, moi aussi j'allais le faire.
Que si le jaloux dit « montre-moi ton portable », faut lui montrer ?
En fait, évidemment, si c'est dit comme ça, ça marche pas. Ouais. Mais en revanche... Oui, normalement, on devrait ne pas avoir, ou alors tu connais mon code et t'as pas allé voir mon portable. Maintenant, je peux te donner mon code, c'est pas grave.
Vous pensez qu'entre couple, il faut avoir le code de l'autre?
Ah ouais, ça, j'en suis convaincue.
Pourquoi?
Ah ouais, c'est vrai. J'en suis convaincue parce que sinon, il y a une part de jardin secret. Alors, autant, en fait, c'est naturel de ne pas y aller.
On a le code. Parce qu'on le donne, tu vas s'en servir. Quoi,
exactement. Et il faudrait que tout soit transparent. Et c'est à partir du moment où je sens que là, il y a une zone d'ombre à laquelle je n'ai pas le droit d'avoir accès.
Tous les conjoints qui nous écoutent, qui ont un conjoint qui ne donne pas le code, ils vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais non, mais oui, mais justement, en fait, c'est trop bête de mettre des zones d'ombre. Moi, je préfère largement, à la limite, que tu te puises à aller voir mon portable et que tu ne trouves rien, plutôt que tu n'aies pas le droit d'aller voir mon portable. Et donc là, on ouvre la sphère fantasmatique.
Alors là, vous étiez, je vous ai coupé sur la première jalousie réactionnelle. Il y en a une autre.
Et après, il y a la jalousie pathologique où d'emblée, j'arrive dans un couple en me disant je vais être abandonnée parce que j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, ou tu vas me trahir parce que. Et ça, c'est souvent des femmes quand même. De toute façon, les hommes sont comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Voilà. Toi, ça changera pas. Bon. Et donc là, il peut y avoir des projections qui sont absolument fausses et qui n'ont aucun doute possible.
Bon, ça serait bien de répondre à une question cruciale maintenant. Est-ce que être jaloux, ça garantit la fidélité de son ou de sa partenaire? Est-ce que la peur évite le danger?
En fait, malheureusement, ça génère plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'en ai tellement marre d'être oppressée que je vais me mettre dans des comportements à risque en me disant, de toute façon, je suis accusée. Donc, alors, ça se fait pas consciemment, hein, mais comme je suis accusée,
autant être coupable.
Voilà. Et en plus, le problème, c'est que ça devient tellement insupportable à la maison que oui, réellement, je commence à ne prendre du plaisir que en dehors et plus à l'intérieur. Donc, ce que la personne jalouse redoutait le plus au monde arrive réellement parce qu'elle le provoque. Et souvent, il y a aussi un côté dans ce manque affectif, c'est que j'ai tellement l'impression d'être détestable que psychologiquement et donc après concrètement je me rends détestable pour justifier cette angoisse que j'ai en moi. Et c'est là où c'est pathologique, c'est plutôt que de reprendre les choses, bon je me sens détestable donc je vais tout faire pour être aimée, en fait là je fais tout pour me rendre détestable et pour me convaincre que j'ai raison.
Donc ça veut dire que les jaloux ont honte de l'être et au bout d'un moment ils deviennent la pire version d'eux-mêmes.
Et bah exactement, ils sont enfermés là-dedans et j'ai pas mal moi de jaloux dans mon cabinet qui se mettent à pleurer en disant
je jaloux sais et que... jamais jalouse, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes.
Non c'est pour faire juste.
Non j'ai les deux mais je plaisante.
Non, c'est pour que tout le monde se sente concerné.
Bien sûr. Mais donc les jaloux souffrent.
Complètement. En fait, c'est épuisant d'être jaloux. Hein. C'est vraiment épuisant parce que souvent, on a des problèmes de sommeil. En effet, ils vont fouiller partout. Ils interprètent le moindre truc. Et je sais que c'est pour ça que c'est difficile de donner les codes des portables. Parce que
même quelque chose d'insignifiant,
exactement,
ils vont trouver que c'est grave.
Peut être interprété. Et c'est là où la jalousie est pathologique.
Oui. Un texto avec marqué bisous à la fin peut partir en vrille.
Et ben, en fonction. En fait, aujourd'hui, on sait très bien. Non, mais même les émoticônes, vous n'imaginez pas les conflits de couple sur des émoticônes avec le bisou cœur, là.
Je fais tout le temps.
Ou l'aubergine, alors qu'on parle de la cuisine. Non, mais...
Bon, bah voilà. Et en fait, bah, une personne qui n'est pas du tout jalouse, c'est insignifiant, on ne va même pas regarder.
Bon, et le bisou cœur, je pense que je le mets à tout le monde. Hein.
Moi aussi, je le mets à tout le monde.
Bah ouais, mais une personne jalouse, ça lui est insupportable. Tu n'envoies pas un bisou cœur à ta collègue, c'est professionnel, pourquoi tu fais ça?
Il existe le bisou sans cœur en émoticône ou pas?
Moi, je ne crois pas.
Je ne sais même pas.
Ouais,
sais
autrement, vous t'envoyez des pouces.
C'est pas sexué
le pouce.
Non, ça c'est bon.
Alors, on va faire des pouces.
Bon, ok. Et dernière chose, est-ce qu'on peut statuer là-dessus au moins si on est jaloux? C'est pas juste parce qu'on est fou amoureux.
Non, en fait, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment pour se dire qu'on est suffisamment solide seul et que l'autre m'aime réellement. En fait, je cherche toujours à me convaincre que tu m'aimes. Donc, à partir du moment où moi je suis sereine, je sais ce que j'apporte dans le couple et franchement, j'ai suffisamment d'estime de moi pour me dire que t'as pas intérêt à partir parce que je sais pas si tu retrouveras mieux. Enfin, voilà, globalement. Oh, ouais. On n'a aucune raison d'être jaloux. Mes problèmes, ce sont des personnes, et d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont souvent très isolées, qui ont très peu, qui n'ont pas forcément d'objectifs très forts au travail, qui vont travailler très très bien, mais qui n'auront pas forcément envie de faire carrière parce qu'elles préfèrent être beaucoup à la maison. C'est des personnes qui se coupent de leurs amitiés, qui ont du mal à inviter en couple, qui n'auront pas de passion à l'extérieur. Toujours dans cette idée que, mais si je suis passionnée et que j'ai envie de faire ça sans mon conjoint, ça veut dire que je ne l'aime pas. Vous voyez, c'est toujours ce conflit intérieur.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On parle de jalousie ce matin et on va voir que c'est un sentiment naturel mais qui peut parfois dégénérer, nous pourrir la vie, qu'on soit le jaloux ou la victime de ce problème. Alors pour nous apaiser sur ce sujet, nous sommes toujours avec Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple. Camille, de façon un peu plus légère pour le coup, est-ce qu'un peu de jalousie dans le couple, ça ne ferait pas de mal? Ça serait peut-être même une preuve qu'on est attaché à l'autre.
Un chouille.
Non, je pense qu'il y a un petit jeu qui est très bon pour les couples. En effet, de dire « je veux que tu l'avais remarqué ». Enfin, voilà. Mais en fait, en rigolant dans un contexte, même parfois, ça peut aller un peu plus loin. L'autre joue le jeu et on en parle. Voilà. Mais en fait, en réalité, on devrait pouvoir en parler comme ça, en légèreté. Et ça fait du bien quand même de se dire que elle ne me laisse pas partir n'importe où, n'importe quand. Elle me demande quand même à quelle heure je rentre et inversement. Je pense que c'est important et ça montre quand même un attachement. Ça rassure un peu quand même.
mentale.
Et le respect aussi de l'autre, en fait.
Exactement.
Quelque part.
Ah bah ouais,
je
tout
pense.
À fait.
Comment on sait que ça devient trop, justement? On a un peu décrit les choses juste avant, mais certains, je suis sûre, certains auditeurs se sont reconnus ou ont reconnu leur conjoint, peut-être dans des choses qu'on a décrites précédemment. Mais quand on est habitué à vivre comme ça avec quelqu'un comme ça depuis des années, comment on peut mettre le doigt sur le fait que c'est pas normal, en fait?
Alors, la première chose, c'est se dire j'ai besoin de sortir de la maison pour me sentir libre. Là, c'est déjà un très très mauvais signe qui fait que ça y est, je suis dans une relation de type domination-soumission. Et en fait, je suis, la jalousie nous domine. Donc c'est même pas, d'ailleurs, j'ai souvent des conjoints hyper touchants qui vont me dire, mais je sais qu'elle est pas elle quand elle réagit comme ça, c'est pas elle, c'est, elle est complètement bouffée par sa jalousie. Mais en réalité, le problème, c'est que moi, je deviens totalement soumis à ça. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est ça va trop loin, quoi.
La
c'est
soumission, déjà et l'impression la qu'on soumission. Est mieux à l'extérieur de la maison, mais il y a aussi ces jaloux qui interdisent leur conjoint de voir d'autres personnes, y compris des amis. Est-ce que là, c'est aussi un signal d'alerte?
Là, c'est un signal d'alerte. Et alors là, pour le coup, il ne faut pas accepter ça. Alors ça, c'est difficile parce que ça va être très conflictuel au départ. Mais en réalité, c'est toujours un jeu. Souvent, le jaloux est dépendant affectif. Donc, il faut bien comprendre que le dépendant, plus je fuis, plus l'autre se sent abandonné et plus il va venir me dominer. Mmh. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher pour que l'autre puisse avoir un peu plus. C'est comme un lasso autour du cou. Vous voyez, quand c'est vous qui tirez et vous étranglez vous-même, en fait. L'autre vous a peut-être mis de l'assaut autour du cou, mais vous étranglez. Donc, si vous faites un pas en arrière, que vous retournez vers votre conjoint, vous ne serez pas étranglé. Et là, justement, celui qui vit avec un jaloux va avoir, il faut absolument qu'il renouvelle les initiatives, qu'il soit hyper acteur dans le couple, qu'il soit force d'initiative, qu'il y ait beaucoup plus de propositions en couple que de propositions à l'extérieur, mais sans renoncer.
Tout ça, c'est quand on veut sauver son couple, parce qu'il y en a aussi qui vont se barrer aussi.
Là, évidemment, mais là, dans ces cas-là, on n'est plus dans la même démarche.
Oui, mais attendez, vous dites des choses en couple, mais pas que à deux, justement,
non.
Si on étouffe. C'est-à-dire
non,
qu'il faut
non, pas du tout.
Essayer de convaincre le conjoint jaloux, de voir des amis, d'aller vers l'extérieur et de combattre sa propre jalousie.
Tout à fait. Et de dire, moi, je vais prendre un verre avec des amis, mais tu es toujours invité, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas.
Tu débarques à n'importe quelle heure.
Et complètement, ça ne me dérange pas. De mettre toujours, en fait, que l'autre soit toujours impliqué dans mon cadre, quand c'est possible, évidemment, hein, mais voilà, de rassurer à ce niveau-là.
Certains conjoints victimes donc, d'un ou d'une grosse jalouse vont se dire aussi parfois, bon, avec le temps, ça passera. Est-ce que ça passe quand on est face à quelqu'un chez qui c'est pathologique?
Non, et encore moins quand moi, je rentre dans le fonctionnement du jaloux. C'est-à-dire que si en effet, je me coupe, je veux tout le temps rassurer l'autre, et c'est souvent l'erreur qui est faite au départ. Pour éviter les conflits, je veux le rassurer, donc je me coupe de tout, je suis tout le temps à la maison, là. Et en fait, au bout de quelques années, je n'en peux plus, et là, faire marche arrière est très compliqué, parce que le jaloux se sent réellement abandonné. Et c'est un peu le cas, parce qu'il y a un désir de distance. Là où, quand dès le départ, on se dit, ben non, mais en fait, là, j'ai vraiment besoin d'aller à ce cocktail de bureau, tout ça. Il n'y a pas de problème.
On a, je crois, un témoignage de Camille au 39-21. On l'écoute et vous lui répondez après.
Salut Mélanie et Julia. Alors, mon copain et moi, ça fait 8 mois qu'on est ensemble et il est super jaloux. Il m'interdit d'avoir des amis, de sortir avec mes collègues de travail, d'avoir une vie sociale, quoi. Et il vient me chercher, même au travail, tous les soirs, par peur que je sois avec un garçon et je sais pas quoi faire pour qu'il change. Est-ce qu'il y a un moyen où je dois le quitter parce que je peux vraiment plus vivre comme ça?
Alors moi, je peux lui répondre, quittez-le.
Je plaisante évidemment. Ça fait 8 mois, donc ça a eu le temps de s'installer, ce genre de pratique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore?
Alors, la première question, c'est se dire, est-ce que, c'est Camille, c'est ça, hein?
Oui.
Est-ce que Camille, vous avez, vous, été rassurante? Est-ce que vous, ou alors, est-ce que vous avez tendance quand même, déjà, à avoir eu un passif que votre conjoint connaît? Alors ça, c'est hyper important,
faut
le passif.
Faut rien dire.
Bah, en fait, en effet, si j'ai eu un passif où j'ai déjà trompé, où je suis entourée que d'hommes et j'ai aucune copine fille parce que ça marche pas avec les filles, voilà, ça va avoir tendance
rassurer,
à inquiéter.
Ouais.
Si j'ai une tendance aussi à être beaucoup dans la séduction, à m'habiller d'une certaine façon, bon, évidemment, ça ne va pas rassurer. Maintenant, là, évidemment, c'est complètement excessif. Au bout de 8 mois, ça veut dire quand même que si, Camille, vous n'avez pas été particulièrement provocante dans votre attitude, ça veut dire que c'est une blessure qu'il a, lui. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir l'améliorer.
Mais le problème avec les jaloux, c'est qu'ils sont, ils pensent que tout est provocation. C'est-à-dire que, j'imagine, Camille, j'espère qu'elle peut encore s'habiller comme elle veut et que son conjoint ne lui dit pas « ta jupe, elle est trop con », il vient l'attendre au travail tous les jours.
Je trouve ça dingue, moi, surtout.
Non, mais ça... Alors,
là, je pense qu'il y a une jalousie pathologique. S'il n'y a pas eu d'événement, alors voilà, on ne connaît pas tout le contexte. Mmh. Donc, si ça se trouve, il y a eu un événement qui a fragilisé dès le départ du couple. Vous savez, parfois, il y a des couples qui se font sur l'infidélité. Ils étaient déjà en couple l'un et l'autre et ils se sont rencontrés en étant encore en couple.
Et ça, c'est pas terrible.
Ah, bah, ça, c'est des fragilités qui restent et qui peuvent ressortir à un certain moment. Là, j'ai envie de dire, ça fait que 8 mois. Donc, à la limite, ça peut être soit le moment de partir en espérant que l'autre réagisse du coup et veuille changer pour se remettre en couple. Mais je pense qu'il faut mettre des limites.
Et pourquoi pas voir un thérapeute de couple? Il est peut-être encore temps, non?
Dans l'idéal, oui.
Dans l'idéal, vous pensez qu'un jeune homme, parce que j'ai l'impression que le conjoint de Camille est à son âge et n'est pas bien vieux, est-ce qu'on peut changer quand on est jeune comme ça? On peut
Évidemment, surtout que c'est lui qui va être victime de lui-même. Hein. Donc il va souffrir, il va faire fuir ses conjoints.
Puis 8 mois, c'est tôt. Je veux dire, la relation n'est pas encore enquistée dans ce truc-là depuis des décennies. Ouais. Je pense qu'il est tout à fait encore possible de faire quelque chose.
Ah bah, complètement. Oui, et c'est ce que je conseille en premier.
Mais en fait, si je comprends bien, le jaloux, c'est pas toujours qu'il est jaloux. Il croit que c'est la façon normale parfois de se comporter. Est-ce qu'il a conscience de ses actes?
Alors, la majorité du temps, il trouve ça normal. Et il va vous démontrer par A plus B. Et d'ailleurs, moi, parfois, en tant que thérapeute, c'est très compliqué de savoir s'il a raison d'être jaloux ou pas, ou si elle a raison. Parce que tous les événements, la façon dont il l'exprime, dont il les projette, on se dit que réellement, il a des raisons d'être jaloux ou elle a des raisons d'être jalouse. Donc oui, évidemment, il y a quelque chose qui est quand même... c'est compliqué d'en avoir conscience. Et même à l'extérieur, c'est difficile. Maintenant, quand on sent qu'il est épuisé, que ce jaloux est complètement est perdu, en est malade lui-même, se rend malade, parce qu'il y en a qui sont sous antidépresseurs, qui ont... Alors, d'ailleurs, là, il y a un signal aussi très important à souligner, c'est que le jaloux qui a des idées suicidaires, il est évident, mais ça, il y en a beaucoup, il est évident que là, il y a de la pathologie, il faut absolument se faire aider.
Consulter un médecin, un psychiatre,
ah,
même.
Bah, évidemment.
Oui, psychomédiqué,
ah, oui,
non, bah, ça, j'imagine.
Voilà, ouais. Et pourtant, il y en a beaucoup qui disent, si tu fais ça, tu ne me retrouveras pas ce soir.
Le chantage au suicide,
c'est fréquent. Et ça, donc, c'est de la dépendance affective, il faut être hyper vigilant. Et le conjoint doit prendre ça au sérieux, de dire, bah écoute, dans ces cas-là, moi j'appelle les pompiers tout de suite, ça veut dire que tu vas pas bien, plutôt que de dire ok, bah je pars pas ce soir. Non, en fait, il y a un moment donné, là c'est pathologique, donc vous ne pourrez rien faire, et si c'est pas ce soir, ce sera demain. Donc
c'est important de donner ce genre de conseil, effectivement. Alors, on a parlé de ses relations, donc celle de Camille qu'on a entendu tout à l'heure, qui disait ça fait que 8 mois, bon, qu'elle subit quelque chose qui est pas très agréable, mais il est encore temps de faire quelque chose. Mais si on n'a rien fait et qu'on est avec un gros jaloux depuis, je sais pas, 10 ans, 20 ans, mais que bon, là ça y est, j'en ai marre, est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose après, je sais pas, 20 ans de relation comme ça, enquisté dans ce système, on n'en peut plus, mais on a quand même envie de sauver l'affaire, on va dire.
Oui.
Comment on s'y prend après 20 ans de jalousie?
Alors, des couples qui ont 20 ans de relation, déjà, ont construit énormément de choses ensemble, en général. C'est des couples qui ont quand même avancé, qui ont des enfants, tout ça. Donc, entre tout quitter, qui est quand même toujours compliqué, et essayer de sauver le couple, ça marche.
Là où des règles au bout de 20 ans, c'est pas facile.
C'est vraiment comme les pièces, les rouages d'un mécanisme. Ça va vraiment grincer parce qu'on va vouloir tourner dans le sens inverse de ce qu'on a tourné depuis, dans le sens dans lequel on a tourné pendant 20 ans. Donc, ça va grincer, ça va être compliqué, ça va être conflictuel. Je leur dis, d'ailleurs, faudra plus avoir peur du conflit, parce que là, il va y avoir des moments conflictuels. Mais il va falloir changer les règles. Dans ces cas-là, il faut être accompagné, parce qu'au bout de 20 ans, vous ne changez pas les choses comme ça, et ça génère beaucoup d'angoisse. Mais c'est possible, et on a réussi, parce que là, au bout de 8 mois, vous n'avez pas encore construit suffisamment de choses pour se dire, bah, on a ça qui fait que j'ai envie de me battre. Alors, peut-être que si, hein, et tant mieux. Mais alors qu'au bout de 20 ans, il y a tellement de choses en commun que souvent, ça peut être justement les ressources pour pouvoir arriver à changer.
Mais alors, comment vous les faites travailler, ces couples? Imaginons un gros jaloux dans le couple, qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'il s'améliore?
Alors, quand les deux sont dans mon cabinet, honnêtement, c'est l'idéal. Ça veut dire que souvent, le jaloux, à partir du moment où on a bien créé l'alliance tous les deux, va accepter d'évoluer et se rend compte qu'il y a quelque chose chez lui. Et, voilà. Et ça, j'en ai eu beaucoup. Et c'est pour ça que je dis qu'ils le disent très humblement. Je suis épuisée de ça et je veux absolument que vous m'aidiez. Alors, moi, je fais beaucoup de EMDR. C'est une technique sur les traumatismes. Et ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on essaye
de... Pour expliquer en quoi ça consiste.
Ouais, exactement.
Rapidement.
Expliquer. Alors, en fait, l'EMDR, c'est une technique qui va travailler sur les yeux. En fait, tous les soirs, en vous endormant, vous avez vos yeux qui vont de droite à gauche et qui relient le cortex au limbique, qui est le cerveau rationnel avec le cerveau émotionnel. Donc, on relie les deux pour que mon angoisse soit reliée à quelque chose de réel. Et souvent, j'ai des angoisses du passé qui ne sont pas reliées à quelque chose de réel. Donc, ça veut dire que le moindre petit signal qui fait une connexion dans mon cerveau en disant « tu te souviens, ça a commencé comme ça quand t'as été trompée », tout de suite, je projette la tromperie directement dessus. Et donc là, l'idée, c'est de relier mon angoisse à l'événement réel avec lequel ça s'est passé pour libérer le présente, cette
et
angoisse.
Et pas le projeter sur des événements à venir. Donc le MDR, ça marche sur les gros jaloux?
Ça marche très bien. À partir du moment où on a identifié ce qu'on appelle la cible, qui est l'événement qui m'a généré ça. Parfois, il faut faire plusieurs EMDR sur plusieurs situations.
Et vous travaillez sur la confiance en eux aussi ou pas?
Énormément. Et souvent, je les invite à s'investir à l'extérieur, à
développer
avoir un
des
réseau
passions,
amical.
Des choses comme ça.
Exactement. Ouais, ça,
même
c'est
des passions,
très
je ne sais pas, faire une activité sportive.
Complètement.
Tout ce qui peut les décentrer de leur couple.
Oui, tout à fait. De voir qu'ils retrouvent cette énergie qu'ils ont à travers le conjoint, qui, en fait, ils ont une vie à l'extérieur, ils vivent pour eux-mêmes. Donc parfois, c'est des personnes qui disent non, je ne me plais pas dans mon boulot, je ne me plais pas. Ok, d'abord, on va changer de boulot, on va se décentrer un peu du couple, on va travailler le travail, on va travailler le réseau, enfin bref. Et en fait, on essaye de montrer qu'il faut décentrer du couple. Si on fait que parler du couple, c'est là où on va envenimer la situation. Mmh. Il faut absolument décentrer et c'est là où les réseaux sont hyper bons et on va parler des amis, de toutes les autres sphères dont on a besoin.
Vous parlez des réseaux, je pensais aux réseaux sociaux, ça doit être une tanasse ça pour les jaloux, non?
Ah bah c'est horrible. Alors ça, je peux vous dire, c'est horrible et ça, alors là c'est... Ah ouais, non mais alors ça bon. Ça, on pourra refaire
une émission sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup Camille Rocher d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle à nos auditeurs votre livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple chez Larousse.
Europe Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui fait du bien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et à présent, place à ces tendances qu'on sélectionne et qu'on décrypte pour vous tous les jours. Il y aura déjà celle de Soizic Belin dans un instant. Bonjour Soizic.
Bonjour.
Bonjour. Alors avec, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Je crois qu'on va bosser. Hein.
Je vais vous parler de ces cahiers qui rythmaient toutes nos vacances. Hein. Il fallait travailler, il ne fallait pas perdre le niveau. Voilà, on va en parler un peu aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
Bon, ne bougez pas Soizic, c'est parfait. Avant de faire travailler nos méninges avec vous, on va déjà écouter la chronique de Séverine Pierron. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous raconter comment TikTok combat la tyrannie de la mère parfaite. On adore ce sujet avec le hashtag, hashtag Moms of TikTok.
Et oui, une nouvelle catégorie de mères est apparue sur les réseaux sociaux, mais surtout sur TikTok, donc cette plateforme de partage de contenu vidéo que vous connaissez bien maintenant,
bien
parce
sûr.
Que j'en parle quand même à chaque chronique. Hein. Et donc, on retrouve cette mère, cette nouvelle femme, sous le hashtag Moms of TikTok, qui ça veut dire en fait les mamans de TikTok hein, en français. Et on peut quand même voir 121 milliards de vidéos, c'est-à-dire qu'il y a 121 milliards de vues pour ces vidéos-là.
Elle ressemble à quoi cette maman TikTok? En quoi elle est différente de celle que l'on rencontre déjà sur les réseaux?
Alors c'est une mère courage, hein, une femme qui lutte chaque jour contre les accidents de purée, les érythèmes fessiers du nouveau-né, une femme qui parle de ses kilos de grossesse jamais partis, de son périnée super détendu. C'est une héroïne moderne qui défend l'allaitement en public, qui donne ses conseils tire-lait et qui partage sans complexe ses coups de blues avec ses followers. Bref, c'est une vraie mère avec un discours autour de la maternité totalement déculpabilisant. Et ça, c'est assez nouveau. Sur TikTok, il y a des centaines de comptes de ce genre, créés pour la plupart par des mères de la génération Z, c'est-à-dire des jeunes femmes qui ont environ 20 ans.
C'est nous, quoi.
Voilà, c'est un peu moi aussi, bien sûr. Et en fait, celle-ci maîtrise parfaitement la narration propre à TikTok, c'est-à-dire les effets de montage, de musique. Vous savez, on écrit aussi sur les images. C'est très différent des posts hein, photos, par exemple, d'Instagram. Et elles s'en servent pour des vidéos qui racontent les galères, mais aussi le fun, quand même, de la parentalité. C'est pas que des galères la parentalité, ça peut être aussi sympa. Alors je vous en cite deux que j'aime bien. Alors il y a Dani Harvey, qui est une jeune américaine mère de deux adorables bambins. 800 000 abonnés quand même.
Wow.
Ou alors il y a aussi en France une jeune française qui s'appelle Jenny Halliday.
Elle n'a
aucun rapport avec
Jenny
Halliday, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Elle a 163 000 abonnés et elle fait pas mal de vidéos pro-allaitement en public qui sont assez drôles.
Mais je comprends pas Séverine, en quoi c'est nouveau? Il y avait déjà des mamans sur Insta, non?
Alors oui, dans les années 2010, on a vu apparaître sur Instagram ce qu'on avait appelé, rappelez-vous peut-être, les Insta-moms. Alors c'était des mamans impeccablement lookées, parfaitement maquillées, qui racontaient leur quotidien avec leur loulou, généralement un bébé mignon avec un serre-tête sur un crâne chauve. Bon, voilà, j'ai envie de mourir. Le truc, c'est que ces Insta-moms proposaient une représentation souvent idéalisée de la maternité et qui a même donné naissance à un personnage que personnellement je déteste, la maman influenceuse. Alors, si ça ne vous dit rien, je vous préconise de regarder quelques minutes du show télé Maman est célèbre sur TFX et vous verrez de quoi je parle. Ça fait très peur. Mais sur TikTok, excite les mises en scène nunuches, les couleurs pastel, les appartements qui ressemblent à un magazine de déco. locaux. Ici, les maires racontent leur vraie vie avec humour et sincérité. Alors, cette tendance vers toujours plus d'authenticité, ça s'inscrit quand même dans un mouvement plus large hein, sur les réseaux sociaux qui a démarré déjà il y a quelques temps. C'est un peu en réaction, si vous voulez, à l'excès de mise en scène de soi qui est au cœur des applis, notamment Instagram. En fait, Instagram, ça existe depuis 12 ans, mais ça fait déjà 10 ans que Mark Zuckerberg a racheté pour 1 milliard de dollars, je vous le rappelle quand même, l'appli de la vie filtrée. Et depuis, le vent a un peu tourné. Si vous voulez, les jeunes générations ne veulent plus de récits unidimensionnels, de cette vie rêvée, fantasmée, mise en scène où tout semble calibré et filtré. Si vous voulez, ils veulent des choses sincères. Plus sincères.
Alors moi, j'ai quand même l'impression que ce besoin de sincérité, justement, rejoint le mouvement de libération de la parole autour de la maternité, de la dépression postpartum, tout ça.
Oui, vous avez raison, Julia. Ces tiktokeuses, en fait, elles l'ont bien compris. L'intime est politique et sans être nécessairement militante, elles font passer des messages féministes à leur communauté, notamment autour de la représentation du corps de la femme et celui de la mère, et qui sont vraiment dans l'air du temps. Si vous voulez, ça tranche avec ce qu'on connaissait déjà. Et franchement, moi, je trouve que ça fait un bien fou.
Mais oui, moi, je me souviens de vidéos, de photos avec des nanas qui venaient d'accoucher avec des vergetures sur le ventre, etc.
Il y a même Cathy Holmes, là, qui est un peu une maman qui nous déculpabilise. On l'a vu afficher avec le ventre à nu et plein de vergetures. Ouais, en fait, elle a accouché il y a longtemps.
C'est
mais
une tendance,
affiche,
en effet, sur les réseaux sociaux. On est un peu sorti de cette phase où tout devait être parfait, tout devait être mis en scène. Il y a quand même beaucoup. Maintenant, il y a aussi la prime à l'authenticité, c'est-à-dire plus vous montrez
un peu trop
choses,
même, non peut-être,
c'est un
du
peu
coup,
l'excès
y a la
inverse
voilà,
aussi, voilà, c'est un peu l'excès inverse.
Et si on n'a pas de vergiture, on se dit mince, moi j'ai rien à montrer, quoi, c'est ça hein.
Non mais attendez, on partait d'Emilie Ratajkowski, cette top modèle sublime, ouais, qui montrait son ventre après avoir accouché. Au bout de deux semaines, elle avait un ventre qu'on n'aura jamais ni vous ni
ouais,
moi.
Ouais, mais même des trucs flippants. Ouais,
ouais c'était ouais, flippant, donc flippant. Moi ça me fait plaisir de voir quand même des images un peu plus véridiques.
Ouais, voilà, je trouve que ça c'est plus authentique et puis c'est déculpabilisant parce que voilà, les mères ne sont pas toutes bien coiffée avec des enfants mignons.
N'est-ce pas,
voilà.
Soizic, mais vous êtes une jeune maman, hein, je crois,
oui,
ça vous parle.
Je suis concernée, ça me parle énormément. Effectivement.
Non, mais c'est vrai, comme vous dites, ne sont pas toutes, en fait, aucune, enfin très
mais
rarement.
Voilà, bien sûr.
Ça, c'est très rare. Moi, j'étais en chemise de nuit à 18h encore, j'avais pas eu le temps de me laver, pas vous, Mélanie
ça... oui. Mais des fois, on a plusieurs jours comme ça.
Voilà. C'est ça, la vraie vie. Merci, Séverine, pour cet éclairage sur cette tendance sur les réseaux sociaux, ce monde obscur est toujours plus clair après vos mises au point. Bon, allez, les vacances scolaires et nos congés d'été n'ont jamais été aussi proches. Et si on glissait un bon cahier de vacances dans la valise? Et si oui, bah lequel alors?
Et oui, alors dans une semaine, eh bien ce sera à peu près ça.
Donne-moi ta main.
Et qui dit vacances dit Mélanie, Julia, Séverine.
Cahier de vacances.
Et voilà, cahier de vacances. Alors comme je suis une bonne élève, j'ai dévalisé les étagères des librairies. J'ai avec moi des exemplaires de cahiers originaux qui donnent envie, et cela autant aux enfants qu'aux adultes. Alors je tiens à préciser que j'ai laissé de côté les cahiers parascolaires pour m'intéresser aux initiatives éditoriales hybrides et culottées. Alors chers auditeurs, à vos plumes, bic ou pouce, prenez note, j'en ai quelques-uns qui pourraient vous ravir.
Et vous commencez justement par les grands enfants.
Les adultes, pour ceux qui ont la nostalgie de ces moments de remplissage du cahier, pour ceux qui religieusement s'y attelaient sagement tous les jours, et pour les autres, comme moi, qui, soyons francs, détestions ça. Vraiment, j'avais l'impression de traîner l'école avec moi pendant les vacances, mais sans les interactions sociales. Alors pour tout le monde finalement, parce que le cahier de vacances, il y a ce petit côté Madeleine de Proust, eh bien ce retour en arrière, les éditeurs l'ont bien compris et ils ont décidé de publier des ouvrages didactiques, ludiques, à destination des plus grands. Alors les éditions Solar, par exemple, ce sont ils trustent le marché de vacances pour adultes. J'ai échangé avec un éditeur et ils en vendent entre 6 000 et 12 000 exemplaires par an. Chaque année, ils retravaillent leurs propositions.
Et je crois que vous avez une belle sélection variée.
J'ai une jolie sélection
passer,
là.
D'ailleurs, hein.
Voilà, alors il y a tout d'abord les partenariats avec des titres de presse. Géo, par exemple. C'est histoire de voyager par procuration. Hein, si vous passez votre été à Paris ou sur votre lieu de domicile habituel, voilà, vous voyagez quand même par procuration. Science et vie, c'est l'occasion peut-être de s'abonner ensuite au magazine. Voilà, c'est une première
touche. Ils sont jolis comme tout en plus, hein, je trouve, ces cahiers.
Vous avez l'équipe aussi pour réviser vos classiques.
Ouais, ça, ce sera pour mon mari, ça. Bon,
c'est pas mal, ça m'intéresse, moi.
Et ensuite, vous avez
l'équipe, sérieusement,
pour mon mari, c'est
ah,
bien,
oui.
Ça.
Tout de suite. Mais c'est pas forcément genré, c'est pour les femmes aussi, l'équipe, voyons.
Oui, non, bien sûr, mais nous, on n'est pas passionnés de foot, après, on a le droit, évidemment.
Il n'y a pas que du foot, du foot. Et puis, vous avez aussi des licences, des marques, comme Fort Boyard. Alors, ils ont aussi Koh-Lanta, mais je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui.
Génial,
l'émission est ainsi déclinée, et là, je trouve que c'est des cahiers de vacances
vacances pour famille. Vous pouvez le faire avec vos grands-enfants. Voilà, c'est un moment de complicité. Si vous regardez l'émission ensemble, là, vous pouvez faire le cahier de vacances ensemble. Alors, si vous voulez voyager dans le temps, vous avez ce cahier de vacances intitulé « Cahier de jeux et d'esprit » qui vous embarque au Moyen-Âge. C'est signé Simon de Tullières, c'est un Instagrammeur. Aux éditions Ebec, c'est fin, c'est drôle et c'est beau. C'est peut-être le plus esthétique de ma sélection.
Moi, j'ai commencé à ouvrir un peu vos cahiers de vacances.
Celui sur Fort Boyard, il y a quoi là-dedans?
Alors, si on doit vraiment justement détailler ce qu'on y trouve, il y a des énigmes, il y a comme des petits tests. Vous avez le choix A, B ou C. C'est assez ludique, en fait.
Oui, c'est assez ludique.
C'est comme des tests, quoi.
Ça ressemble pas vraiment au cahier de vacances qu'on a l'habitude d'ouvrir. C'est pas très scolaire, on est d'accord.
C'est plus cool, c'est
vraiment des cahiers de jeux, en fait.
Ouais, je précise aussi pour celui de Sciences et Vie, par exemple, cahier de vacances adulte 2022, 150 exercices pour explorer le monde et se divertir. Ça va de quiz sur l'univers, le système solaire. Donc on apprend des choses, on s'amuse. Il y a comme des espèces de mots fléchés, des mots que... c'est ça, Julia,
c'est ça.
Le poulpe, le cloporte, en fait, des trucs sur les animaux aussi. Donc c'est, on se cultive tout en jouant.
Je pense qu'il y a
du sudoku.
Je sais pas comment on dit.
Il va y en avoir quelques-uns cachés par là.
Vous n'avez pas dû en faire beaucoup.
Et puis ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes dans une société en révolution féministe. Donc j'ai avec
comment
moi
ça
le cahier de révolution féministe. Enfin, le cahier de vacances, pardon, féministe, qui fait la révolution. C'est signé Sorocité, c'est un média féministe indépendant et le cahier est publié par Hachette. On écoute Léa Drouel à ce sujet.
Notre cahier ressemble beaucoup à celui qu'on emportait enfant en vacances, qu'on aimait ou qu'on détestait, mais dans lequel on retrouvait toutes les matières qu'on étudiait à l'école. Bon là, évidemment, il est revisité à la sauce féministe, donc on a les pages français où on va parler d'écriture inclusive, on a aussi des problèmes de maths pour sensibiliser à la parité en politique, on parle également des stéréotypes des femmes préhistoriques, et puis on a aussi une page récré avec des jeux et des quiz.
Alors vous l'aurez compris, le but étant de sensibiliser au féminisme avec de la pédagogie et beaucoup d'humour.
Bon, bah c'est pas mal toute cette petite sélection. Vous avez préféré lequel, vous, Julia ?
Moi, j'aime bien Fort Boyard.
Ah, tenez, le féministe, il devrait vous plaire aussi. les enfants, ils ne sont pas en reste choisis, qu'il me semble. Il y a quoi du côté des
Pour les
des
enfants,
petits
le but des cahiers de vacances, c'est de les faire réviser, de maintenir leur niveau, de préserver la notion d'apprentissage, mais... on le fait autrement. Si, à la place d'un cahier classique, on les faisait réfléchir autrement en s'amusant. Alors j'ai craqué pour un cahier qui est publié par une petite maison d'édition. C'est une maison d'édition de jeux d'enquête qui s'appelle En Cavale. Il s'appelle Opération Olympia et il vous emmène dans la Grèce antique sous fond de mythologie. C'est un peu dans le style des livres dont vous êtes le héros. Ici, vous avez plusieurs issues possibles à cette enquête. Il y a une enquête donc et... donc vous apprenez aussi les conséquences de vos choix. C'est très malicieux. Je laisse Astrid, la cofondatrice d'En Cavale, nous en parler.
Donc nous, aux éditions En Cavale, on considère que absolument tous les enfants ont un plein potentiel et qu'il n'est pas toujours bien révélé. Et ça peut venir de l'école, de leurs propres freins, leurs propres limitations, leurs propres autocroyances. Et avec nos jeux d'enquête, on a envie, on a l'ambition de donner confiance à chaque enfant pour développer justement leur plein potentiel et leur donner les armes et les pleins pouvoirs pour découvrir eux-mêmes en quoi ils sont des enfants extraordinaires. Parce que chaque enfant est exceptionnel, parce que chaque enfant est plein de ressources, nos jeux sont faits pour ça.
Écoutez, Swazik, je trouve ça bien, surtout pour sortir des écrans ce genre de cahier d'enquête. Hein. C'est pas mal.
Et oui, c'est une belle initiative. Et vous avez justement, pour déconnecter nos enfants qui ont eu le droit toute l'année d'accéder aux réseaux sociaux, que ce soit sur leur téléphone ou sur le vôtre, vous pouvez installer Nanabatech. C'est une application qui bloque l'accès aux Insta, TikTok et
Vous voulez qu'ils nous détestent pendant tout l'été, les enfants, je crois. Là.
Pour pouvoir y accéder, ils vont faire un type cahier de vacances, un petit test, maths,
génial,
français ou
contre.
Sciences. Ils répondent à quelques questions et hop, sésame, ils peuvent accéder sur un temps bien voulu aux applications.
Vous rappelez le nom de ce truc-là, j'adore.
Ça s'appelle Nanabatech.
C'est trop bien. Et un dernier pour la route, comme on dit, alors.
Et le dernier cahier de vacances, je le trouvais assez marrant. Vous savez, il est coutume de faire un cadeau en fin d'année à sa maîtresse. Alors pourquoi pas un cahier de vacances C'est l'idée de Nostalgif, un cahier de vacances spécial années 80-90 pour la maîtresse, histoire cette fois-ci d'inverser les rôles et de rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Ouais, c'est pas mal de tester la maîtresse pour savoir si elle a le niveau. C'est sympa.
C'est dangereux comme jeu.
C'est trop marrant. Et bien, merci beaucoup. Choisis, qu'on
je
a
vous
plus
en prie.
Qu'à choisir le cahier qui fera notre bonheur ou de bonnes engueulades avec nos enfants, au choix. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi à la même heure, dès 11h. Et Mélanie, on va s'intéresser à quoi lundi ?
Eh bien, on va s'intéresser en détail aux différents modes de cuisson que nous utilisons pour cuisiner. Nous sommes en juillet, pour les plus chanceux, le barbecue est déjà dans le jardin, prêt pour les grillades de l'été. Mais est-ce le meilleur moyen de cuisson pour la santé et surtout pour le goût ? Plancha, poêle ou vapeur douce, on les passera tous en revue pour en tirer tout simplement le meilleur.